La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. En ouverture de l'extraordinaire exposition Christian Boltanski qui vient d'ouvrir au centre Pompidou, un court-métrage de 1969 montre un homme au plus mal, assis contre un mur, toussant, expectorant, crachant un liquide rouge, geste aussi explicite que fort, indiquant une intention d'en finir avec la peinture. Ce rouge est presque la seule couleur d'une exposition, d'une œuvre, qui, sitôt passé les toiles des premières années, plonge dans le noir, l'anthracite, le blanc, l'ombre et les lumières. Avant que le bleu du ciel apparaisse enfin dans les toutes dernières pièces, celles du bout du monde, le ciel bleu de Patagonie, entre le néon rouge départ installé à l'entrée de l'exposition et le néon bleu arrivé qui marque la fin du parcours, les couleurs auront été comme éteintes. De couleurs et d'art, il sera question aujourd'hui à la suite dans les idées avec un sociologue artiste ou un artiste sociologue, Hervé Fischer. Il sera rejoint en seconde partie par le poète Alain Borer. Le poète Alain Borer qui nous rejoindra donc en seconde partie si toutefois il arrive à traverser les rues de Paris en raison des manifestations des gilets jaunes. Jaune, une couleur, tiens donc. En voilà une, on va parler de couleurs aujourd'hui avec vous, Hervé Fischer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes artiste et sociologue. Vous faites aussi de l'art sociologique depuis longtemps. Mais là, je vous ai invité parce que vous publiez dans cette très belle bibliothèque des histoires de Gallimard, Les couleurs de l'Occident, de la préhistoire au XXIe siècle. Alors ce livre, j'imagine, a lui-même une longue histoire, parce que en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que votre thèse de doctorat portait déjà sur les couleurs. Vous avez une formation en philosophie en France, à l'École normale supérieure, et puis vous avez fait de la sociologie, vous avez enseigné la sociologie, mais en parallèle, vous avez été artiste. On va pas revenir aujourd'hui sur tout ce parcours, il faudrait beaucoup de temps, mais c'est sur ce rapport aux couleurs que j'aimerais vous faire revenir aujourd'hui, Hervé Fischer, à l'occasion de la publication de ce livre. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux couleurs? Est-ce lié à cet arrière-grand-père qui était non pas un homme préhistorique, mais un préhistorien, Hervé Fischer?
Oui, mon arrière-grand-père piète dont les collections sont au musée de Saint-Germain-en-Laye. Ça m'a toujours naturellement préoccupé. Et au début des années 70, c'était l'époque de déconstruction de la peinture, mouvement BMPT, support surface. On voulait démystifier l'illusion bourgeoise de l'image. Et donc, j'ai décidé de faire... C'était aussi l'époque d'avant-garde. Tout le monde voulait faire de l'avant-garde. Tout le monde pensait être dans l'histoire de l'art s'il inventait une nouvelle idée chaque jour. Donc, j'ai voulu faire un premier geste d'artiste... contre la notion d'avant-garde, dont on pouvait d'avance comprendre que ça n'irait pas très longtemps, pas très loin. Et j'ai donc choisi un geste préhistorique. L'empreinte de la main, qu'on trouve dans les cavernes préhistoriques. Et qui est de couleur, c'est des couleurs qui est faite avec des terres, brûlées. Donc, selon le degré de cuisson, les couleurs allaient du terre de sienne claire au foncé. Et moi-même, ayant choisi de faire de la peinture en mettant seulement des empreintes de main, pour marquer que je ne crois pas qu'il y a de progrès en art depuis le temps de la préhistoire, mon arrière-grand-père disait que la préhistoire, c'était déjà de l'art. Bon, il était le premier à dire ça, à la fin du 19e, c'est quand même pas rien. Bon. Et la question s'est posée, de quelle couleur faire ses mains? Et comme sociologue, je me suis dit qu'il fallait faire respecter le code le plus évident de couleur. Dans chaque société, il y a des codes. enfin, on ne le sait plus aujourd'hui parce qu'on est dans une sorte de brouillamini, de bigarrure de la couleur, mais c'est une exception par rapport à l'histoire de la couleur. Il y a toujours eu des sociétés qui ont voulu contrôler les codes, parce que les couleurs, c'est quand même irrationnel, c'est dangereux. Ça sert beaucoup dans la magie, dans les médecines douces, il y a toutes sortes de mythes qui sont accrochés à chaque couleur. Donc les sociétés en général, et c'est le thème de ce livre, contrôlent les systèmes de couleurs qui évoluent en relation avec les structures sociales elles-mêmes. Donc je me suis dit au début des années 70, de quelle couleur vais-je peindre mes empreintes de main ? Naturellement, en époque de république laïque et bien française, j'ai choisi le bleu et le rouge sur fond blanc. Et c'est à partir de cette question-là que je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à avoir une bonne raison pour choisir les couleurs de mes peintures. Et ça m'a entraîné vers l'idée que, d'une part, des codes de couleurs, et en même temps de me dire, mais aujourd'hui, on vit tellement dans la bigarrure, chacun a sa subjectivité, on ne sait même pas pourquoi on préfère le bleu ou le vert ou le rouge. Et pourquoi ce n'était pas comme ça au Moyen-Âge, où il y avait des codes, par exemple, chrétiens extrêmement stricts avec des sanctions, où à l'époque romaine, les empereurs interdisaient la pourpre et ceux qui voulaient vraiment, ils risquaient des sanctions sociales graves, ou bien dans les sociétés magiques, évidemment, encore bien plus. Dans les sociétés magiques et religieuses, évidemment. Mais depuis aussi dans les sociétés, on va dire, politiques, parce que le roi Louis XIV aussi contrôlait les couleurs. Donc c'est ces questions-là qui, au début des années 70, m'ont agité, m'ont turlupiné, m'ont titillé, et puis j'ai commencé à réfléchir, et ce livre, 50 ans après, finalement, j'ai pu le terminer.
Alors ce livre parcourt cette histoire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au numérique, mais ça c'est une autre histoire parce que vous avez été aussi un pionnier s'agissant de l'appropriation des technologies numériques,
oui,
à la fois du
Québec.
Point de vue artistique et sociologique, Hervé Fischer. Mais donc vous partez de la préhistoire, donc c'est évidemment pas un travail d'historien, le volume serait trop bref pour ça, c'est un travail de sociologue qui s'appuie sur l'histoire, c'est un travail de socio-histoire, pourrait-on dire en quelque sorte. Vous commencez donc par la préhistoire, et d'ailleurs cette exposition, Christian Boltanski, que je citais, a lieu exactement là où l'expo préhistoire, au même endroit, au Centre Pompidou, se tenait il y a quelques semaines encore. C'est Centre Pompidou où vous-même avez exposé récemment votre travail, Hervé Fischer. Donc vous partez vraiment d'il y a très longtemps, vous consacrez des chapitres relativement brefs à des périodes historiques qui nous amènent jusqu'à la situation contemporaine sur laquelle vous vous attardez davantage, Hervé Fischer.
Ben c'est normal, avec tout le respect que je dois à mon arrière-grand-père, je suis quand même un enfant de mes 68, je suis quand même quelqu'un qui pense que la sociologie, ou ce que j'appelle la mythanalyse, c'est l'analyse des mythes, ce qui m'intéresse, c'est l'époque contemporaine. Par exemple, en mythanalyse, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les mythes d'aujourd'hui. Par exemple, je pense que nous avons autant de mythes aujourd'hui qu'en avaient les Grecs ou les Égyptiens anciens. On se croit moderne, on s'en rend pas compte, mais on les a. Même la démocratie, c'est un mythe. Le progrès, c'est un mythe, etc. Bon, alors, ce qui m'intéresse vraiment, où je voulais en venir, mais j'ai fait le travail studieux de remonter au passé, parce que j'avais des exemples que je pouvais clairement analyser dans des sociétés où les couleurs étaient très codifiées. Mon problème, c'était que dans la société contemporaine, on n'a plus l'impression que les couleurs sont codifiées. Depuis les fauvistes, on a l'impression qu'on a une liberté anarchiste et individuelle, subjective.
Ou alors il y a une multiplicité des codes.
Ou alors c'est ça, les codes, on retrouve les codes d'une façon comme dans une sédimentation, les couches profondes dans les idées la pop sociologie de la culture, c'est-à-dire on ne sait pas très bien, mais on pense toujours que le bleu c'est peut-être la pureté de la Vierge, on pense peut-être que le doré c'est la lumière de Dieu du Moyen-Âge, on a encore quelques idées comme ça, et dans les médecines douces, toutes les magies, en Orient encore, mais mon livre est consacré à l'Occident, c'est très très fort. Bon, il y a des médecines qui sont absolument dédiées à la couleur. Bon, toujours est-il que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre la couleur d'aujourd'hui. Alors, deux choses. Premièrement, on est revenu à une sorte de primitivisme de la couleur. Nous nous intéressons plus aux nuances. Par exemple, au Québec où je vis, pour décrire la couleur de la glace, il y a 30 mots, parce que le bleu plus ou moins foncé de la glace, ça veut dire aussi si on peut marcher dessus ou pas, etc. Alors aujourd'hui, il y a une réduction de la sensibilité aux couleurs. On a besoin de distinguer un rouge, un orange et un vert quand on est conducteur, ou bien les systèmes d'alarme. Au Centre Pompidou, on a les couleurs qui sont affichées, qui correspondent à des fonctions, les tuyaux pour l'eau, pour l'électricité, etc. Et d'autre part, c'est ce nouveau primitivisme de la couleur, on n'est plus dans la peinture bitumée du 19e, il est aussi évident dans tout ce qui est l'image numérique. L'imagerie scientifique, les images par satellite, aussi bien que dans la publicité, ou bien les films en noir et blanc qu'on recolorise, aujourd'hui, on a des couleurs bonbons. J'appelle ça les couleurs de l'étalage de crème glacée. C'est la gamme de couleurs dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une bigarrure de couleurs saturées, c'est-à-dire extrêmement pures. Et c'est ce que j'appelle, non pas, j'appelle ça un fauvisme, pas le fauvisme anarchiste du début du siècle précédent, mais le fauvisme numérique. Et ça me paraît très important de voir qu'aujourd'hui, ça fait partie non seulement du contrôle. Par exemple, les gilets sont jaunes, ou les bonnets sont noirs, ou les chemises sont brunes. On a bien vu des identifications avec des couleurs. Et dans les matchs de sport, on voit bien la couleur des bleus, etc. Mais donc ce primitivisme, il est lumineux, donc des couleurs encore plus saturées, parce que c'est des couleurs des couleurs lumière qu'on voit sur tous nos écrans. Et qu'on aime, moi je dis quelquefois, on les mange comme de la crème glacée, on les suce comme la crème glacée, on mange les couleurs. Et ça fait partie de l'euphorisation du cadre de vie actuel, ça fait partie de la séduction de la société de consommation, ça fait partie des modalités de contrôle par les institutions publiques. Et alors là, c'est le deuxième point que je voudrais souligner. On va de moins en moins se retrouver dans cette bigarrure anarchiste. De plus en plus dans les sociétés de masse contemporaines, pour des raisons de sécurité, de normalisation internationale, de lisibilité. Faut pas qu'un orange soit un petit peu rose quand on doit s'arrêter.
Bon. Alors justement, on va revenir à cette période qui s'ouvre, selon vous, de reprise en main, en quelque sorte, du code chromatique, même si cette reprise en main se fait de manière différente de celles qui ont précédé dans l'histoire et que vous analysez longuement, Hervé Fischer, dans votre livre. La codification des couleurs, les couleurs Pantone, par exemple, qui deviennent vraiment la référence pour eux, qui travaillent sur un ordinateur. C'est un moyen de correspondre, de mondialiser aussi les couleurs, de faire en sorte qu'elles circulent à travers la planète, parce que chaque pays avait ses normes. Mais là, on a une norme internationale, en quelque sorte.
C'est ça, qui vient par-dessus les normes locales. On sait bien que si on voyage dans les pays du Nord, on voit que des maisons qui ont la couleur de la peinture des bateaux qui sont en bois. On voit bien qu'il y a eu le Bauhaus, toute l'architecture blanche. Tout ça se mélange aujourd'hui. Et c'est évident que si je vais au Guatemala, par exemple, je vais voir des couleurs des populations autochtones qui n'ont rien à voir avec les couleurs parisiennes. Et chaque fois que je reviens à Paris, moi, au Québec, je vis en noir et blanc pendant 3-4 mois de l'année. Mais à Paris, je vis dans une sorte de gris urbain, un peu humide d'ailleurs, mais qui fait partie de la civilisation occidentale aussi. D'ailleurs, la dernière image que j'ai demandé de reproduire dans ce tableau, c'est une peinture de Fromanger, et c'est une femme qui marche dans un environnement grisâtre, sous les pavés, je reviens à mai 68, sous les pavés, c'est pas la plage, mais sous les pavés, c'est la couleur. Il y a des pavés de couleurs saturées qui ressortent. Alors ça fait partie de l'ensemble, aussi bien de la publicité, des étalages de consommation dans les magasins. Il faut pas oublier l'époque des marchands de couleurs. Le plastique a permis de...
Oui, alors ça, vous avez un développement intéressant sur le plastique. Tout simplement parce que le plastique est une matière qui n'est pas très intéressante en tant que matière. Elle n'a pas la subtilité de la pierre, du bois.
Pas de couleur, pas de texture.
Donc il faut en rajouter.
En rajouter pour la vendre et la faire accepter. Donc la couleur, ça a été fondamental pour faire accepter tous les objets usagés, les seaux, les balais, les pelles à poussière et dans le camping. C'est devenu populaire, ces couleurs-là. Et aujourd'hui, ces marchands de couleurs, on les a un peu oubliés. Mais pour moi, le marchand de couleurs d'aujourd'hui, c'est le marchand de glace.
Et puis, puisque vous parlez de marchands, de marchandises, on a vu apparaître aussi des métiers nouveaux, des métiers de conseiller en couleurs, des choses inimaginables.
Ah oui, bien entendu. Quand j'enseignais à l'école des arts décoratifs, rue d'Ulm à Paris, j'avais des collègues, c'était la grande époque d'ailleurs des coloristes conseils, c'est une école vraiment de coloristes conseils français qui ont travaillé très fort sur la couleur. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont construit des systèmes scientifique, mais je dirais extrêmement scientifique. Vous parliez des Pantone tout à l'heure, mais là on arrive à faire des cosmogonies de couleurs avec toutes les nuances numérotées, parce que maintenant une couleur c'est un numéro. Et effectivement, vous pouvez d'ailleurs aller chez le marchand de couleurs d'aujourd'hui avec un échantillon de couleurs du mur de chez vous. Ça va être scanné et on va vous refaire exactement la même couleur. Maintenant, c'est devenu aussi une industrie. C'est même une industrie importante, la couleur, aujourd'hui. C'est énorme et c'est des milliards. Bon. Et ça, c'est le côté scientifique qui a prétendu arriver à contrôler toutes les nuances de couleurs, à en donner des descriptifs scientifiques, mais qui tiennent aussi compte de la matière, si la couleur est réfléchissante, si le grain est fin du pixel, etc. Donc, en même temps qu'il y a un brouillamini de couleurs, en même temps, on revient effectivement à une connaissance pseudo-scientifique, extrêmement fine. Quand vous achetez un écran d'ordinateur, on vous dit que vous avez 15 millions de couleurs dessus. L'œil ne peut pas en percevoir plus que 200 peut-être. Bon, c'est un argument de vente, mais la couleur est devenue un argument de vente. On n'a pas encore parlé de la mode qui faisait varier les couleurs chaque année, mais il y a beaucoup de tendances aujourd'hui à effectivement reprendre le contrôle de la couleur, soit d'une façon marchande pour vendre, pas seulement les seaux du marchand de couleurs d'autrefois, mais les vêtements. Il y a la reprise en main scientifique qui aboutit à des choses, on va dire, qui sont d'une utilité discutable et d'une scientificité contestable, parce qu'au fond, la couleur, ce n'est pas un numéro. La couleur, comme disait Goethe, ça dépend de la perception qu'on en a. C'est le cerveau qui décide de la couleur. Et dans ce livre, ce que je dis, ce n'est pas l'optique qui décide de la couleur, comme disait Newton. Ce n'est pas le cerveau ou l'âme, comme disait Goethe. C'est la société aujourd'hui qui décide de la couleur. Et elle veut le contrôler. Et on s'en va certainement vers un contrôle de masse de plus en plus nécessaire pour la sécurité urbaine. Quand on est des millions d'individus qui circulent dans les villes, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur les couleurs. L'euphorisation et les nuances, ça ne vend plus. Les vents, ça n'intéresse plus personne. Et ça ne se voit plus. L'œil n'y est plus sensible.
Revenons sur les usages politique de la couleur, et notamment historique, à la fois dans l'histoire de l'art et puis dans l'histoire en général que vous étudiez, Hervé Fischer, dans ce livre « Les couleurs de l'Occident », vous montrez que la couleur, et ça en dépit du fait que de grands historiens de l'art n'en ont pratiquement pas parlé, c'est ce qui est troublant, la couleur a joué un rôle absolument fondamental, non seulement dans les révolutions artistiques, celle qui se produit au XIXe siècle en particulier, mais aussi dans les révolutions politiques avec une articulation entre les deux.
Oui, ben, prenons un exemple. Avant la Révolution française, on est dans le pré-romantisme. On commence à avoir un peu plus d'intérêt pour les couleurs. Avec le romantisme, on va redécouvrir éventuellement les couleurs. Et le romantisme allemand, avec Goethe, la Novalis, la fleur bleue de onirique de Novalis, par exemple. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous vous souvenez aussi des rubans de toutes les couleurs de l'époque de Louis XIV et encore jusqu'à Louis XVI, un peu moins. Bon, mais la curiosité, c'est que quand la bourgeoisie reprend le contrôle de la Révolution française avec Napoléon, pour établir sa légitimité, et Napoléon lui-même pour établir sa légitimité, il impose le noir et blanc. Le noir et blanc néoclassique. C'est très étonnant parce que, en fait, dans l'Antiquité, il n'y avait pas de toge noire. Bon, mais sinon, c'est une fabrication. Alors, il y a les muscadins, il y a les précieuses ridicules, nouvelle version qui arrive avec des rubans. Il y a Théophile Gautier avec son gilet jaune qui fait la révolution de la couleur. Après, il y a Rimbaud avec les couleurs des voyelles. Donc, tout ça se développe, mais le néoclassicisme domine l'Europe jusqu'à la fin du 19e, malgré les impressionnistes, malgré les romantiques. Il faut que les fauvistes arrivent en place pour faire la révolution dans la couleur. C'est comme l'écho tardif, quasiment un siècle plus tard, de la révolution politique. Cette fois-ci, ça a pris vraiment un siècle. Après une domination du néoclassicisme puritain binaire, pour que la couleur accompagne, résonne par rapport à la révolution politique de 1789.
Au fond, on a l'impression d'un affrontement cyclique entre le camp de la couleur d'un côté et le camp du noir et blanc de l'autre. Vous parliez de Napoléon qui remet du noir et blanc après la Révolution française.
Mais aux Grecs.
On peut penser à ce que vous dites, vous en disiez un mot tout à l'heure, du blanc du Bauhaus, par exemple, qui vient en réaction à certains usages de la couleur et qui sera lui-même contesté par quelqu'un qui vous arrêtez aussi dans le livre, qui est Fernand Léger, qui lui va lui opposer la couleur.
Absolument. Fernand Léger, dont parle Alain Borer, il en parle peut-être pas directement, mais indirectement. J'ai lu votre livre, Alain, avec grand, grand plaisir. Bon. Effectivement, Fernand Léger, il écrit, c'est la vulgarité qui apparaît dans les campagnes, c'est des affiches. Les affiches de Villéglet, déjà à l'époque, bon, les affiches qui sont d'une vulgarité totale, qui mettent de la couleur dans des beaux paysages avec des nuances de vert, de blond, de feuillage, et puis aussi Le Corbusier qui va comme Fernand Léger à New York et qui est absolument impressionné par les couleurs. Mais Le Corbusier lui-même, d'abord influencé par le Bauhaus qui fait l'architecture en blanc et qui dit que les couleurs ça détruit les volumes, donc l'architecture n'admet pas les couleurs, c'était la théorie fondamentale du Bauhaus. Et bien, lui-même va commencer à colorer avec des couleurs pures des panneaux de son architecture. Et il évolue lui-même. Et lui-même, quand il disait, à l'époque où les cathédrales étaient blanches, il a fait un livre là-dessus, mais il a oublié que les cathédrales du Moyen-Âge et gothiques étaient polychromes. Comme les peintures grecques d'autrefois, on admire le marbre grec, mais il était peint, il était en bleu ou en rouge. Le Parthénon était en bleu ou en rouge. On l'a redécouvert aussi. Il y a eu tellement d'erreurs historiques sur la couleur. Mais effectivement, on peut pas écrire une histoire de la couleur.
Mais dans quelle mesure ces erreurs historiques n'ont pas été aussi amplifiées, je dirais, par le rapport au passé qu'on s'est mis à avoir avec la photographie, puis le cinéma, qui était d'abord en noir et blanc.
Au point que moi, quand j'étais petit, je croyais que le monde, les photos noir et blanc, c'était la vraie perception. J'imaginais pas de voir une image de la nature qui serait en couleur. Et quand c'est apparu, tout le monde a trouvé que c'était vulgaire. On voulait pas de photos en couleur. Et aujourd'hui, une photo noir et blanc a une esthétique spéciale. C'est même suresthétisé par rapport à une photo en couleur normale. Il y a eu une inversion complète. C'est curieux qu'à un moment, on a pensé que le monde était en noir et blanc. Puis ensuite, on croit que le monde est absolument en couleur et faire, c'est un geste esthétique de faire une photo noir et blanc.
Le noir, vous parlez du noir dans la situation contemporaine en remarquant qu'il est devenu une quatrième couleur primaire.
Absolument, absolument. Ça commence avec Manet, dont Paul Valéry parle et qu'il admire. Manet a osé mettre du noir, mais aussi déjà dans la peinture espagnole, on voit apparaître le noir aussi. Il y a une histoire du noir qui devient non pas simplement dans le code chrétien, le noir c'était la couleur du diable, du méchant, c'était l'ombre, par opposition à la lumière de Dieu. Donc, effectivement, le noir ne pouvait pas être une couleur. Et il était refusé par une longue tradition chrétienne. Et ce sont les peintres du 19e siècle, espagnols d'abord et puis ensuite français, qui ont osé réintroduire le noir comme une couleur primaire. Et maintenant, d'ailleurs, dans la mode aussi, le noir n'est plus considéré comme une absence de couleur du bourgeois puritain, mais comme une couleur affirmée. Ça, c'est une évolution sociologique. L'œil n'a pas changé. L'âme n'a pas changé s'il y en a une. C'est la sociologie qui décide de la symbolique des couleurs, de l'interprétation, même de l'interprétation irrationnelle de la couleur. Parce que les mythes sont des productions idéologiques. C'est les sociétés qui produisent les mythes. C'est pas un arrière-monde antérieur à l'histoire, contrairement à ce que disent des gens comme Lacan ou de Jung.
Alors, vous êtes sociologue, vous êtes artiste, vous avez cette approche sociologique de la couleur, mais néanmoins, pour ce livre, vous êtes surtout intéressé aux productions artistiques. Certes, vous parlez un peu de la mode, un peu du design, mais vous parlez pas véritablement de la couleur en général dans les sociétés. Vous avez choisi de regarder la couleur à travers les productions artistiques. Pourquoi, Hervé Fischer?
Pour plusieurs raisons. Il nous faut des documents. Bon, et la mode, l'architecture et la peinture ou la sculpture sont des documents. Bon, il y a des textes écrits auxquels on peut se référer, mais parce que ce sont finalement des scientifiques, pas seulement des peintres, des scientifiques et des peintres qui ont décidé de faire les révolutions, et des architectes ou des designers de meubles qui ont décidé de faire des révolutions de la couleur. Les paysans ont suivi, d'ailleurs ils n'avaient même pas le droit d'avoir des couleurs vives, c'était réservé à l'aristocratie, et donc il n'y a pas eu de grands changements.
Ça c'était avant que les tracteurs verts ou rouges arrivent.
Oui, et aussi les 4 chevaux Renault. Vous vous souvenez des petites 4 chevaux Renault que Jean-Pierre Reynaud d'ailleurs a emblématisé. Bon, donc ce sont des hommes qui à un moment en résonance avec des mouvements qu'on percevait pas encore, mais qui se sont confirmés, ou bien par décision révolutionnaire individuelle, qui ont décidé d'oser mettre du noir, ou d'oser réduire les couleurs, ou d'oser revenir à des couleurs pures. Fernand Léger en est un exemple évident. Picasso n'est pas un grand coloriste, il n'a rien décidé sur les couleurs. Mais je dis pas qu'il est mauvais peintre, j'ai pas dit ça. Mais Fernand Léger décide, oui. Ou bien Yves Klein décide et invente un bleu, le bleu de la Méditerranée, et il l'a fait pour une raison mystique. C'est une lumière cosmique, c'est une couleur cosmique pour lui. Alors ce sont vraiment des individus, c'est la part des individus, indépendamment ou en résonance ou en opposition, plus exactement, avec les structures sociales fondamentales. Quand Matisse décide de faire le fauvisme, ils sont 3-4 peintres à décider de faire le fauvisme. Il y a Braque, il y a lui, il y a Vlamin qui va venir. Ou bien quand Picasso décide de renoncer aux couleurs pour le cubisme, préférant une architecture que les couleurs détruiraient, avec Braque est devenu gris, alors que Braque était complètement éclatant de couleurs en 1905 avec le fauvisme. Ce sont des individus qui décident de ces choses-là.
Des individus et puis des changements technologiques qui, par exemple, rendent possible la fabrication à grande échelle, oui, la reproduction à grande échelle industrielle des affiches qu'on va retrouver dans la rue.
Simplement le tube de peinture, 1841. Le tube de peinture, ça permet aux peintres d'aller peindre en plein air.
On en parle en deuxième partie après un extrait du nouvel album de Baxter Dury.
Trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun, murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way.
scary people saying silly shit.
Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Après le déluge, après le monde en noir et blanc, enfin, la couleur. La couleur est un message en soi. La libération rend ses couleurs au monde. Les affiches enluminent les murs. Un témoin capte cette histoire dans la rue. Villeglé prend le monde par les murs. Marquant cette irruption de la couleur dans les rues, l'affiche participe à l'époque des ravalements de façades par lesquels Malraux rendait à Paris et aux villes une jeunesse éclatante, et ce fut une éclaircie après les temps sombres. Un grand moment historique, comme le passage du cinéma au parlant en 1927, puis de la télévision noir et blanc à la couleur dans les années 60. Une de ces phases de lancer des couleurs, un envoi des couleurs, l'arrivée des couleurs et des sons à travers lesquels s'éveilla progressivement le XXe siècle et qui se prolonge au XXIe en envahissement mondial. C'est un extrait de Villeglé, l'anarchiviste, un livre d'Alain Borer qui paraît chez Gallimard. Bonjour Alain Borer.
Bonjour chers amis.
De couleurs, il est question d'emblée dans ce livre, dans ces 100 grammes pour Jacques Villeglé que vous faites paraître, puisque vous commencez par nous avouer que vous n'avez rencontré la beauté que 3 fois dans votre vie. C'est et beaucoup. Deux de ces 3, c'est beaucoup. La première, c'était dans la chapelle Sixtine, dans des conditions particulières. Mais les deuxième et troisième fois, c'est la deuxième en découvrant, dites-vous, le bleu des mers du Sud qui ne se transporte d'aucune façon. Et que l'on n'a jamais retrouvé nulle part ailleurs que dans le fameux vitrail de Chartres, cathédrale dont parlait à l'instant Hervé Fischer. Et puis la troisième fois, c'est quand vous vous êtes retrouvé seul devant, sinon dans, écrivez-vous l'affiche, l'humour jaune, boulevard Pasteur, février 1953. Ça, c'était un matin de 2008 au Centre Pompidou, dont il a été question aussi depuis le début de cette émission. Et ça, c'était face à une œuvre de Villeglé, qui est donc l'objet de ce livre, Alain Borer.
3 fois la beauté, c'est beaucoup. Ça devrait être suffisant, mais j'ai quand même essayé de réfléchir sur ces 3 expériences. La première appartient à l'histoire de l'art, c'est-à-dire, disons, à la fabrication de l'art. Enfin, je parle en pensant à un texte classique de Kant, hein. Est-ce qu'on fabrique alors Kant oppose les artistes et les fourmis, donc il a une histoire de fabrication. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est la beauté du monde, comme une énigme, pas comme une donnée acquise, comme une beauté incroyable. Les couchers de soleil, tout ce que Roger Caillois appelle l'esthétique. Alors, dans la différence, c'est celle que Kant vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a l'intervention humaine sur une matière, sur un médium. Mais il se trouve que dans la troisième émotion, que j'ai éprouvée d'ailleurs dans la station de métro, Assemblée nationale.
Le lendemain de cette rencontre avec l'œuvre.
Oui, c'est ça. C'était le lendemain matin, j'attendais le métropolitain aux aurores, le premier métro. Et j'étais seul dans la station. On venait d'en changer les affiches. Et elle était une paroi préhistorique, brusquement, non pas sur le plan des couleurs dont Hervé Fischer fait au fond l'histoire, hein, parce que ça peut être des codes anciens, ensuite il y a une arrivée de la matière. Alors justement, il y a une arrivée d'autre chose avec cette expérience, cette émotion que j'éprouvais à la station quand j'étais seul dans une paroi, enfin il y avait une question d'art pariétal. Parce qu'il y a une synthèse entre les 2 grandes qualités de l'histoire de l'art. Donc, avec l'affiche, c'est-à-dire avec les nouveaux réalistes, il y a une synthèse historique qui est, ce ne sont plus des artistes qui font, disons, hein, attends, qui font une œuvre qui s'oppose à la résistance de la matière. Ce n'est pas non plus l'esthétique donnée de la beauté du monde, mais participe des deux. Par une nouvelle forme qui n'est pas qui apparaît sans doute avec une histoire de la sociologie, une histoire sociologique des couleurs, puisqu'il y a brusquement un nouvel éclairage du monde. On sort de la guerre, mais aussi de la pénurie, et ces artistes-là, par exemple, n'ont jamais eu rapport à l'histoire de l'art. Ville-le-Glet était dans une école d'art à Rennes et il n'y avait pas de livres. Il n'est pas venu à Paris où l'on exposait pas encore d'ailleurs les abstraits lyriques français, hein, mais encore Fautrier, Picasso, tout ça, Matisse. Donc il ne connaissait pas tout ça, il connaissait seulement un tableau de Miro qui s'appelle La fin de l'art. Bref, il a commencé par la fin. Et ils se sont emparés du monde qui s'offrait, hein, du monde sur les palissades. Alors, c'est donc une troisième forme, une forme nouvelle. Alors, cette forme nouvelle, elle vient de Dada, en fait. C'est en 1913. Je m'arrête là, parce que j'ai trop de choses à dire.
Hervé Fischer, Ville-le-Glet, vous connaissez son travail aussi depuis longtemps.
Je le connais depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs vu son exposition aussi au Centre Pompidou, qui était très importante. Puis ça fait des années que je l'ai rencontré régulièrement. Et effectivement, il a pris la couleur que le monde donne. Il a pris la couleur pariétale, comme dit Alain Borer, en faisant allusion à cette station de métro à Assemblée nationale, où quand tu es passé là, les affiches étaient déchirées avant qu'on en recolle d'autres. Oui. Bon, c'est ce que tu dis dans ton livre. Et Ville-le-Glet, il est stupéfait, il est saisi, il est interpellé par ces couleurs-là, telles qu'elles sont données par le hasard de l'arrachage. Et en ce sens, c'est un artiste qui fait partie du groupe des nouveaux réalistes, comme Yves Klein. Mais alors que Yves Klein prend une décision de choisir le bleu et même de fabriquer un bleu en prenant un brevet sur son bleu outre-mer qu'il a vu dans la Méditerranée, où il disait « quand il y a une mouette dans le ciel, ça me fâche, ça détruit mon œuvre bon. ». Au contraire, Ville-le-Glet et Raymond Hens et tous les affichistes ou des affichistes de l'époque, ils sont fascinés par les couleurs du monde tel qu'il est donné. Effectivement, c'est le regard nu, comme pourrait dire Manet, c'est le regard nu qui est saisi, qui est attrapé par la couleur.
Oui, alors parce qu'il y a une autre dimension encore, qui est celle de l'arrachage.
Oui.
Et c'est-à-dire que le monde est donné, il n'y a plus qu'à l'arracher, le prendre. Hein. Et ça, c'est une pratique nouvelle, c'est une pratique supplémentaire. Par exemple, les nouveaux réalistes pratiquent de cette façon après Dada, on pourrait dire. C'est-à-dire que brusquement, ce sont les objets réels, entre guillemets réels, mais enfin les objets manufacturés, ceux qui sont donnés immédiatement. Ce sont pas des médiations, ce sont des immédiatetés. Et les nouveaux réalistes se trouvent dans cette phase nouvelle, n'est-ce pas, l'histoire. La relation avec Klein est très belle parce qu'ils se sont partagés le monde. C'est un Yalta de l'art. Et ils se disent à moi le ciel, à toi
les déchets.
Les déchets, les poiries,
les poubelles,
tout ça. Et à moi, alors moi je prends toutes les affiches du monde. C'est magnifique. Mais alors, par exemple, la première exposition de Ville-le-Glet, elle est obtenue chez Colette Allendy, mais avec un cadeau de temps de Yves Klein
qui lui donne
dit,
du temps.
Je te donne 15 jours de mon temps.
Oui, magnifique.
Or, c'est celui qui, n'est-ce pas, vendait à Dino Buzzati une feuille d'or qu'il jeta dans la Seine Buzzati achetant non pas l'or, mais l'instant même, c'est-à-dire une part d'éternité, un moment d'éternité, qui est vraiment l'œuvre de Klein. C'est un cadeau de Klein à Villeglé. C'est-à-dire que ce qui est très beau, c'est que... Alors, ce qui est nouveau, c'est que l'histoire, il n'y a plus de, disons, il n'y a plus de beauté, au sens où on va représenter une Vénus nue de Giorgione dans la nature, mais on prend la femme, pour Yves Klein, et la femme même est l'objet de l'anthropométrie. Alors, cette immédiateté est une forme, une troisième forme tout à fait nouvelle dans l'histoire.
Hervé Fischer, qu'en est-il de cet arrachage du monde dont parle Alain Borer dans le monde numérique qui est le nôtre aujourd'hui ? Il facilite à certains égards ce moment initié par Dada dont parlait Borer.
Ma réponse sera très ambiguë. Parce que l'arrachage, on peut le comprendre de manière très diverse. Faut se rappeler, comme disait Alain Borer, qu'on est au lendemain de la guerre. Le monde a été arraché. On est dans la mauvaise conscience, on est dans la déchirure. Moi aussi, j'ai fait la déchirure des œuvres d'art, mais un peu plus tard, parce que je suis un peu plus jeune que Villeglé. Mais c'est un moment où le monde réapparaît. Il est saisi par un Villeglé et l'arrachage a une symbolique, évidemment. Le mot arrachage est fort dans le sens même d'une souffrance, peut-être. C'est épidermique. Il y a aussi quelque chose d'épidermique dans la démarche, comme le dit Alain Borer, dans la démarche des affichistes. Et je pense que c'est un moment historique. On a été arraché à nous-mêmes par les ravages, les désastres d'une totalité totale de la Seconde Guerre mondiale. On ne pouvait pas imaginer pire. Et c'est, là, il y a eu un retour au monde et une redécouverte de l'enchantement du monde. Et parce que c'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire du côté positif.
Oh, je voudrais dire une chose sur, me semble très importante sur ce plan, c'est la question historique, parce que ça se retrouve également dans le domaine de la poésie. Il y a une ère AIRE, mais aussi E accent grave RE, par laquelle toutes les définitions contradictoires de l'art et de la poésie ont un point commun. Par exemple, la versification. Quelles que soient les oppositions. Et puis à partir de 1913, décidément, on passe de la médiation, disais-je, à l'immédiateté. Donc on passe à l'objet réel. Et c'est une phase, un cercle concentrique supérieur. À partir de 1990 environ, avec les nouvelles technologies, la vidéosphère, l'ère numérique, c'est une ère supplémentaire, plus large encore. Elle a un point commun avec l'arrachage, c'est le copier-coller.
Oui.
Et c'est une phase supplémentaire. C'est ce que j'appellerais la rédiplose, reduplique. Mais cette fois, non plus avec les objets réels, avec les objets virtuels.
Merci beaucoup Alain Borer. Je rappelle que vous publiez Villeglé, l'anarchiviste aux éditions Gallimard. Et merci à vous Hervé Fischer. Vous êtes l'auteur des Couleurs de l'Occident de la préhistoire au XXIe siècle, publié chez le même éditeur Gallimard dans la bibliothèque illustrée des histoires. On trouve les références de ces deux livres sur la page de l'émission La Suite dans les Idées sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter cette Suite dans les Idées et une page sur laquelle vous pouvez également vous abonner au podcast de l'émission. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier, à la technique aujourd'hui Clément Daté, à la réalisation Marie Placé.